Attention, cette neuvième et dernière cassette est une cassette D90 et non pas une cassette C60. C'est-à-dire que chaque phase de la cassette dure 45 minutes et non pas 30 minutes comme pour les cassettes précédentes. Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, 9e cassette, 2e face, page 226. Au bout d'un moment, Tom prit la chandelle de Becky et l'éteignit. Cette mesure d'économie s'expliquait d'elle-même. Becky comprit et son espoir défaillit à nouveau. Elle savait que Tom avait dans sa poche une chandelle entière et 3 ou 4 morceaux, mais se rendit néanmoins compte qu'une prudente économie s'imposait. Petit à petit, la fatigue se fit sentir. Les enfants essayèrent de ne pas y prendre garde, car il était terrible de penser à s'asseoir quand le temps devenait de plus en plus précieux. Marcher dans une direction, dans n'importe quelle direction, c'était au moins progresser, et cela pouvait porter ses fruits. Mais s'asseoir, c'était inviter la mort et lui faciliter la tâche. Bientôt, les frêles jambes de Becky refusèrent de la porter. Elle dut s'asseoir. Tom s'installa à côté d'elle. Il lui parla de ses amis, de sa maison, des lits confortables qui s'y trouvaient, et par-dessus tout, de la lumière. Becky pleurait, et Tom cherchait le moyen de la consoler. Mais les arguments qu'il trouvait pour l'encourager étaient usés jusqu'à la corde. Les circonstances leur conféraient une sorte d'ironie macabre. Becky était si lasse qu'elle finit par s'endormir. Tom en fut heureux. Il voyait son visage tiré reprendre sa sérénité sous l'influence de songes agréables. Quelquefois, un sourire passait sur les lèvres de Becky. Tandis qu'il rêvassait lui aussi, Becky se réveilla avec un rire léger qui s'arrêta brusquement. Ce qui suivit était plutôt une plainte. « Dire que j'ai pu dormir, » gémit-elle. « Oh non, comme j'aurais voulu ne jamais me réveiller !» « Oh non, Tom, je n'ai rien dit. Je te fais de la peine. Je ne le dirai plus. »« Je suis bien content que tu aies dormi, Becky, » dit Tom. « Maintenant, tu dois te sentir reposé. Nous allons trouver le chemin de la sortie. »« Nous allons essayer, tu veux dire, » répondit Becky. « J'ai vu dans mon rêve un si magnifique pays. Je crois plutôt que c'est là que nous irons. »«
Peut-être pas, » dit Tom. « Du courage, Becky, et en route. »
Ils se levèrent et se remirent en marche, en se tenant par la main, mais sans grand espoir. Ils cherchèrent à calculer depuis combien de temps ils étaient dans la grotte. Il leur semblait qu'il y avait des jours, peut-être des semaines. Et cependant, il était évident que cela ne pouvait pas être, puisque leur provision de chandelles n'était pas épuisée. Un long moment s'écoula. Puis Tom observa qu'il fallait faire le moins de bruit possible, que si on passait près d'une source, il importait de ne pas la manquer. Ils finirent par en trouver une. Tom déclara qu'il fallait se reposer à cet endroit. Les deux enfants étaient terriblement fatigués. Becky certifia cependant qu'elle pouvait marcher encore un peu. Elle fut étonnée d'entendre Tom la contredire. Elle ne comprenait pas. Ils s'assirent. À l'aide d'un peu de terre glaise, Tom fixa sa chandelle sur une aspérité du mur en face d'eux. Ils réfléchirent pendant quelques instants sans rien dire.
« Tom, j'ai faim !» dit tout à coup Becky.
Tom sortit quelque chose de sa poche. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. En souriant tristement, Becky répondit.
« C'est notre gâteau de noces, Tom. »«
Oui, dit Tom. Je souhaiterais seulement qu'il y en ait davantage, parce que c'est tout ce qui nous reste. »«
Je l'avais pris au pique-nique, Tom. » pour qu'en rentrant, nous en mettions chacun un morceau sous notre oreiller et que nous fassions de beaux rêves. C'est comme ça que font les grandes personnes, avec les gâteaux de noces. Mais pour nous, ce sera notre. »
Elle n'acheva pas sa phrase. Tom partagea le gâteau en 2 morceaux. Becky mangea sa moitié de bon appétit, mais Tom grignota à peine la sienne. Il y avait de l'eau fraîche en abondance pour compléter ce modeste repas. Bientôt, Becky proposa de repartir. Tom garda un instant le silence, puis dit « Becky, Serais-tu assez forte pour supporter une mauvaise nouvelle ?
Bien que l'appréhension la fît pâlir, Becky crut pouvoir dire que oui.
Eh bien voilà, Becky. Il nous faut rester ici où nous avons de l'eau à boire.
Car ça, c'est notre dernier bout de chandelle.
Becky ne put pas retenir ses larmes. Tom fit de son mieux pour la consoler, mais sans grand succès.
Enfin, Becky dit.
Tom ?
Quoi, Becky ?
Ils finiront bien par s'apercevoir que nous ne sommes pas là. Ils nous chercheront.
Oui, bien sûr, évidemment.
Peut-être qu'ils nous cherchent déjà maintenant.
Je pense. J'espère bien que oui.
Quand crois-tu qu'ils seront aperçus de notre absence ?
Mais, dit Tom, en reprenant le bateau, je suppose.
Il devait faire nuit à ce moment-là, dit Becky. Crois-tu qu'ils se seront aperçus que nous n'y étions pas ?
Je ne sais pas, mais de toute façon, ta mère se sera bien aperçue de ton absence quand les autres revenaient.
L'expression d'effroi que Tom put voir sur le visage de Becky le fit tressaillir. Il se rendit compte de l'erreur qu'il venait de commettre. Cette nuit-là, en effet, Becky ne devait pas rentrer chez elle.
Les deux enfants réfléchirent en silence. Une nouvelle manifestation du chagrin de Becky prouva à Tom que leurs pensées suivaient un même cours.
Il se pourrait que la matinée du dimanche fût écoulée à moitié avant que Madame Thatcher découvrît que Becky n'était pas chez Madame Harper.
Les enfants, les yeux rivés sur leur dernier bout de chandelle, le regardaient fondre, lentement, mais inexorablement.
Il n'y eut bientôt plus qu'un centimètre de mèche. La flamme eut un dernier sursaut, une mince colonne de fumée monta, puis, dans toute son horreur, l'obscurité régna totale, absolue.
Combien de temps s'écoula avant que Becky eût conscience qu'elle pleurait dans les bras de Tom ? Ni l'un ni l'autre n'aurait pu le dire. Tout ce dont ils se rendirent compte, l'un et l'autre, c'est qu'après un temps qui leur parut interminable, ils finirent par sortir de leur torpeur.
Tom estimait qu'on devait en être à dimanche, ou peut-être à lundi. Il s'efforçait de faire parler Becky, mais la pauvre petite avait trop de chagrin. Elle n'avait plus aucun espoir.
Tom pensait qu'on avait dû depuis longtemps s'apercevoir de leur absence et que sans aucun doute, les recherches étaient commencées.
S'il criait, quelqu'un ne manquerait pas de venir.
Il essaya, mais dans l'obscurité, les échos résonnèrent de façon si lugubre qu'il ne recommença pas.
Les heures s'écoulèrent, interminables. La faim se fit à nouveau sentir.
Il restait un morceau de gâteau que sur la moitié qui lui revenait, Tom n'avait pas mangé. Ils se le partagèrent. Et il leur parut ensuite qu'ils avaient encore plus faim qu'auparavant. Ce simulacre de repas ne fit qu'exciter leur appétit.
De temps en temps, Tom disait « Chut ! Tu as entendu ?»
Tous deux retenirent leur respiration et écoutaient.
C'était comme un appel très faible, très lointain.
Aussitôt, Tom répondit. Il prit Becky par la main. Les deux enfants avancèrent à tâtons le long du couloir dans la direction supposée.
Tom écouta. Un instant plus tard, le son se fit entendre de nouveau, et apparemment d'un peu plus près.
« Les voilà, dit Tom, ils arrivent. Viens, Becky, nous sommes sauvés !»
La joie des prisonniers fut délirante. Ils n'avançaient toutefois que lentement, car les crevasses ne manquaient pas, et il fallait faire très attention.
Bientôt, en effet, ils se trouvèrent devant une crevasse et durent s'arrêter. Avait-elle 1 mètre de profondeur ? En avait-elle 30 ?
En tout cas, il n'était pas question de la franchir.
Tom se mit à plat ventre et étendit le bras tant qu'il put pour essayer d'en mesurer la profondeur.
Il ne toucha pas le fond.
Il n'avait plus qu'à rester où ils étaient et à attendre l'arrivée des chercheurs.
Ils tendirent l'oreille. Il n'y avait pas à se dissimuler que les appels devenaient de plus en plus distants.
Quelques secondes de plus et ils n'entendirent plus rien.
Accablant coup du sort. Tom s'enroua à force d'appeler, mais cela ne servit à rien. Il parla à Becky pour lui redonner de l'espoir.
Mais après un long moment d'anxieuse attente, aucun bruit ne se fit plus entendre.
Les enfants revinrent à tâtons jusqu'à la source. Le temps leur paraissait de plus en plus long.
Ils dormirent de nouveau, et quand ils se réveillèrent, ils avaient faim et ils étaient démoralisés. Tom estima qu'on devait en être au mardi. Tout à coup, Tom eut une idée. Il y avait plusieurs galeries latérales à proximité. Mieux valait en explorer quelques-unes que de se morfondre à ne rien faire. Il tira de sa poche la ficelle de son cerf-volant, l'attacha à une saillie du mur, et Becky et lui partirent, Tom en tête, déroulant sa ligne à mesure qu'ils avançaient. Au bout de quelques pas, le couloir se finissait dans le vide. Tom s'agenouilla pour tâter le sol et le mur aussi loin qu'il pouvait avec la main. En faisant un effort pour toucher le mur un peu plus loin vers la droite, il vit, à moins d'une vingtaine de mètres, une main d'homme tenant une chandelle émerger de derrière un rocher. Tom poussa un vigoureux cri d'appel, et aussitôt, cette main fut suivie par le corps auquel elle appartenait. C'était celui de Joey l'Indien. Tom en fut comme paralysé, incapable de faire un mouvement. L'instant d'après, il eut la satisfaction de voir le faux Espagnol tourner les talons en vue de se soustraire à toute poursuite éventuelle. Tom s'étonna que Joey n'ait pas reconnu sa voix et n'eût pas saisi la belle occasion qui se présentait à lui de le tuer pour se venger de sa déposition au tribunal. Mais peut-être l'écho avait-il modifié le timbre de sa voix. À la réflexion, il pensa que ce devait être le cas. La frayeur de Tom lui coupa bras et jambes. Il se dit que s'il avait la force de revenir à la source, il y resterait, et que pour rien au monde, il ne courrait le risque de rencontrer à nouveau Joey l'Indien. Il eut soin de ne pas révéler à Becky ce qu'il avait vu, et lui dit qu'il n'avait crié qu'à tout hasard. À la longue, la faim et le désespoir l'emportèrent sur la peur. Une nouvelle attente fastidieuse devant la source et le besoin de dormir qui s'ensuivit leur changèrent les idées. Les enfants se réveillèrent en proie à une faim dévorante. Tom pensait en être au mercredi ou au jeudi, qui sait, peut-être même au vendredi ou au samedi. Les recherches avaient probablement été abandonnées. Il proposa d'explorer une autre galerie. Il était disposé à affronter la rencontre de Joey l'Indien et tous les autres périls. Mais Becky était très faible. Elle était tombée dans une morne apathie dont il fut impossible à Tom de la tirer. Elle attendrait maintenant où elle était et mourrait. Elle n'en avait plus pour longtemps. Que Tom, disait-elle, prenne avec lui sa ficelle et explore tout ce qu'il voulait. Elle l'implorait seulement de revenir souvent lui parler. Elle lui fit promettre que quand l'affreux moment arriverait, il resterait près d'elle et lui tiendrait la main jusqu'à la fin. Tom l'embrassa, la gorge serrée par l'émotion, et se fit un devoir vis-à-vis d'elle de paraître certain soit de rencontrer les chercheurs, soit de trouver une issue pour sortir de la grotte. Puis il reprit la ficelle en main et à quatre pattes s'en alla à tâtons dans l'une des galeries, à demi-mort de faim et démoralisé par de sombres pressentiments. Chapitre 32. Les voilà. L'après-midi du mardi touchait à sa fin. La consternation régnait dans le village. On n'avait toujours pas retrouvé les enfants. Des prières publiques avaient été ordonnées. De nombreuses prières privées, dans lesquelles chacun avait mis tout son cœur, avaient été dites. Malgré cela, aucune bonne nouvelle n'était parvenue de la grotte. La majorité des chercheurs avaient renoncé à leurs explorations et avaient repris leurs occupations habituelles en déclarant qu'il était évident pour eux qu'on ne retrouverait jamais les enfants. Madame Thatcher, très malade, avait fréquemment le délire. On disait que cela fendait le cœur de l'entendre appeler sa fille. Elle levait la tête, écoutait durant une longue minute, puis retombait sur les oreillers en gémissant. Tante Polly faisait de la neurasthénie. Ses cheveux gris étaient devenus blancs. Ce mardi soir, les villageois se couchèrent tristes et désespérés. Tout à coup,
Au beau milieu de la nuit, les cloches en un carillon frénétique réveillèrent les dormeurs. En un clin d'œil, les rues furent pleines de gens à mi-vêtus qui criaient « Levez-vous, levez-vous, les voilà, ils arrivent !» Les uns soufflaient dans les trompettes, les autres tapaient sur des casseroles. Toute la population, en un bruyant cortège, se dirigea vers le fleuve à la rencontre des enfants qui arrivaient dans une voiture découverte, traînée par des hommes hurlant de joie. Puis le défilé se reforma en sens inverse et remonta la rue principale en poussant d'innombrables hurrahs. Toute la localité était éclairée, personne ne songeait plus à aller se coucher. C'était la nuit la plus émouvante que le village eût jamais vécue. Pendant une demi-heure, défila dans la maison de M. Thatcher une procession de visiteurs qui voulaient voir les enfants, les embrasser, serrer la main de Mme Thatcher. Beaucoup de gens étaient tellement émus qu'ils ne pouvaient même plus parler. Ils pleuraient de joie. Le bonheur de Tante Polly était complet. À celui de Mme Thatcher, il ne manquait que de savoir si le messager, porteur de l'heureuse nouvelle, avait pu joindre son mari, toujours à la grotte. Tom, allongé sur un canapé, était entouré d'un nombreux auditoire. Il racontait l'extraordinaire aventure en brodant à son habitude. Il avait exploré, aussi loin que le lui permettait la ficelle de son cerf-volant, deux galeries sans résultat. Puis, s'étant risqué dans une troisième, il se disposait à revenir en arrière quand il avait aperçu une sorte de lueur lointaine qui ressemblait à la lumière du jour. Lâchant la ficelle, il avait rampé dans cette direction, avait passé la tête et les épaules par une ouverture exiguë d'où, il n'en croyait pas ses yeux, il voyait le majestueux Mississippi couler à ses pieds. Heureusement que son expédition n'avait pas eu lieu la nuit. Il n'y aurait pas eu de lueur, il n'aurait pas poussé plus à fond l'exploration de la galerie. Il était alors revenu annoncer la bonne nouvelle à Becky. Elle l'avait prié de ne pas la tracasser avec de pareilles histoires. Elle était fatiguée, elle savait qu'elle allait mourir et ne demandait pas autre chose. Il avait insisté, il avait réussi à la convaincre. En apercevant le bleu du ciel, elle avait failli mourir de joie. Il s'était hissé hors du trou, l'avait aidé à sortir, puis ils s'étaient assis tous deux, pleurant de bonheur. Des hommes étaient alors passés dans une barque. Tom les avait appelés, leur avait expliqué la situation, avait dit qu'ils mouraient de faim. Tout d'abord, les hommes n'avaient pas cru à son récit, qu'ils jugeaient fantaisiste, parce que, disait-il, vous êtes ici en dessous de la vallée où se trouve la grotte, et à 8 kilomètres en aval. Ils avaient toutefois pris les enfants à bord. Ils les avaient conduits dans une maison où on leur avait donné à manger, où ils avaient pu prendre du repos jusqu'à 2 ou 3 heures après le coucher du soleil. Ces mêmes hommes les avaient ensuite ramenés au village. Monsieur Thatcher et son équipe de chercheurs étaient toujours dans la grotte. Avant l'aube, ils y furent rejoints grâce au cordage qu'ils avaient déroulé derrière eux et on leur apprit la grande nouvelle. La fatigue et la faim, pendant un séjour de 3 jours et 3 nuits dans la grotte, avaient épuisé les enfants. Tom et Becky restèrent au lit le mercredi et le jeudi. Ils semblaient de plus en plus fatigués. Le jeudi, Tom se leva. Le vendredi, il put sortir. Et le samedi, il était à peu près rétabli. Mais Becky ne quitta pas sa chambre avant le dimanche. Encore avait-elle l'air de sortir d'une longue maladie. Tom avait appris que Huck était souffrant. Le vendredi, il alla le voir, mais ne fut pas admis dans sa chambre. Même prescription pour le samedi et le dimanche. Après quoi, il fut admis quotidiennement, à condition de ne pas raconter son aventure et de ne rien dire qui pût être de nature à agiter le malade. Madame Douglas resta près du lit pour s'assurer que Tom observait les consignes. Chez lui, Tom apprit l'histoire de la colline de Cardiff Hill, l'attaque de la maison de Madame Douglas et la découverte dans le fleuve, près de l'embarcadère, du cadavre de l'homme en guenille. On supposait que le malheureux s'était noyé en voulant s'échapper. Environ 15 jours après sa sortie de la grotte, Tom alla voir Huck, dont la convalescence était maintenant assez avancée pour qu'il fût en état de soutenir une conversation. Et Tom prétendait avoir à lui dire quelque chose du plus haut intérêt. La maison de M. Thatcher étant sur son chemin, Tom entra pour dire bonjour à Becky. M. Thatcher, qui était avec quelques amis, interpella Tom et lui demanda ironiquement s'il n'avait pas envie de retourner dans la grotte.
« Ça ne me ferait pas peur, » dit Tom.
« Et tu n'es pas le seul, Tom, je m'en doute. Mais à cela, nous avons mis bon ordre, »
dit M. Thatcher. Dorénavant, plus personne ne pourra se perdre dans cette grotte.
Comment cela ? Demanda Tom.
Parce que j'ai fait blinder la porte il y a 15 jours. J'y ai fait mettre 3 serrures et c'est moi qui ai les clés.
Tom devint blanc comme un linge.
Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as, mon petit ? Vite, qu'on apporte un verre d'eau !
Monsieur Thatcher en aspergea le visage de Tom et quand Tom parut remis de son émotion.
Alors maintenant, ça va mieux ? Qu'est-ce qu'il y avait donc ?
Il y a, monsieur Thatcher, que Joe et l'Indien est dans la grotte.
Chapitre 33 Au but. En quelques minutes, la nouvelle fit le tour du village. Une douzaine d'embarcations chargées d'hommes partirent pour la grotte. Le bac, bondé de curieux, suivait. Tom était dans la barque de M. Thatcher. Aussitôt ouverte la porte de la grotte, un triste spectacle s'offrait au regard dans le demi-jour de l'entrée. Joe l'Indien était étendu par terre, mort. Son visage tout contre la porte, ses yeux braqués, témoignaient que jusqu'au dernier moment, le retour au monde extérieur avait été sa seule préoccupation. Tom était ému malgré tout, car il savait par sa propre expérience par quelles affres le misérable avait dû passer. Il avait pitié. Mais il éprouvait aussi un soulagement, un sentiment de sécurité tel qu'il comprit à ce moment-là, mieux qu'il ne l'avait jamais fait, sous quelle terrible menace il avait vécu depuis le jour où il avait témoigné devant le tribunal contre ce sinistre coquin. Le couteau à cran d'arrêt de Joey était là tout près, la lame cassée en deux. Le misérable avait opiniâtrement essayé, tant du tranchant que de la pointe, d'entamer la poutre maîtresse de la porte. Mais le roc l'en avait empêché. Vains efforts d'ailleurs, car au dehors la roche naturelle formait une sorte de seuil. Sur cette roche très dure, le couteau n'avait pas eu de prise. C'est le couteau seul qui en avait souffert. Et la roche eût-elle permis à Joey d'arriver à ses fins, que le travail de l'Indien aurait été inutile. Car en admettant que la poutre eût été coupée, Joey n'aurait pas pu passer sous la porte, et il le savait. Il n'avait endommagé la porte que pour faire quelque chose, pour passer le temps et donner un but à ses facultés surtendues. Il était habituellement possible de trouver dans les anfractuosités du rocher une demi-douzaine de bouts de chandelle laissés là par les touristes. Mais cette fois, il n'y en avait plus. Le prisonnier affamé les avait cherchés et les avait mangés. Il avait même mangé plusieurs chauves-souris qu'il avait réussi à attraper et n'en avait laissé que les griffes. Cela ne l'avait pas empêché de mourir de faim. Non loin de là, une stalagmite formée par l'eau goûtant lentement de la stalactite au-dessus d'elle, avait monté du sol au cours des âges. Le captif avait cassé la stalagmite. Sur le tronçon, il avait mis une pierre qu'à force de patience, il avait évidée pour recueillir la précieuse goutte qui tombait toutes les 3 minutes avec une régularité de chronomètre. De quoi remplir une cuillère à café toutes les 24 heures. Cette goutte tombait déjà au moment de la construction des pyramides, au moment de la chute de Troie, à l'époque de la fondation de Rome, du début de l'ère chrétienne, du débarquement en Angleterre de Guillaume le Conquérant, de la traversée de Christophe Colomb. À l'heure actuelle, elle tombe encore. Elle continuera à tomber quand tout ce dont nous nous occupons aujourd'hui aura sombré dans l'après-midi de l'histoire, dans le crépuscule de la tradition, et dans la nuit noire de l'oubli. Tout ce qui se passe est-il combiné en vue d'une action future ? Cette goutte n'est-elle tombée régulièrement depuis 5000 ans que dans le but de désaltérer un jour cet être humain ? D'ici 1000 ans, cette goutte aura-t-elle un autre jour rôle à jouer ? Qu'importe. Il y a déjà de nombreuses années que le malheureux a évidé cette pierre pour recueillir les précieuses gouttes d'eau. Aujourd'hui, c'est devant cette misérable pierre, devant cette eau qui tombe si lentement, que le touriste s'arrête le plus volontiers. À l'échelle des curiosités de la grotte, la coupe de Joe et l'Indien vient en tête. Le palais d'Aladin lui-même ne peut pas rivaliser avec elle. On enterra Joe et l'Indien près de l'entrée de la grotte. de 3 lieues à la ronde, affluèrent en bateau ou en carriole les curieux venus des villes et des hameaux. Ils avaient pris leurs enfants avec eux, ils avaient apporté leurs provisions, et ils se déclarèrent presque aussi contents de voir enterrer Joël l'Indien qu'il aurait été de le voir pendre. De bonne heure, le lendemain de l'enterrement, Tom emmena Huck dans un endroit écarté pour parler affaire. Par le gallois et par Madame Douglas, Huck avait appris dans le détail l'aventure de la grotte. Mais il y avait une chose dont Tom était sûr que personne n'avait parlé. Cette chose même dont il voulait lui parler. Quand la conversation vint sur ce terrain, la figure de Huck s'allongea.
« Ah, je sais ce que c'est, dit-il. T'as été au numéro 2 et tu n'as rien trouvé que du whisky. Personne ne m'a dit que c'était toi, mais aussitôt que j'ai entendu parler du whisky, je m'en suis douté et j'ai compris que tu n'avais pas l'argent, sans quoi tu te serais bien arrangé pour me le faire savoir en douce. Tom, quelque chose me dit que nous ne mettrons jamais la main sur ce magot. »
« Tu n'y es pas, Huck, dit Tom. Il n'est pas question du bistrot. Tu te souviens qu'il était ouvert le samedi, le soir du pique-nique, et que tu devais être de garde cette nuit-là?
Ah oui, bien sûr que je m'en souviens. Il me semble qu'il y a un an de ça. C'est cette nuit-là que j'ai suivi Joël l'Indien, jusqu'à chez Madame Douglas.
C'est toi qui l'as suivi?
Ouais, mais faut pas que ça se sache. Je parierais que Joël a laissé des copains par ici. Et j'ai pas envie qu'il me fasse du mal. Sais-tu bien que sans moi, il serait maintenant au Texas? »
Sous le sceau du secret, Huck raconta alors toute l'aventure à Tom, qui ne savait que ce que le gallois lui en avait dit.
« Pour moi, dit Huck, revenant au nœud de l'affaire, celui qui a repéré le whisky a aussi barboté le pognon. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il nous passe sous le nez, mon vieux. »
« Huck, dit Tom. « La galette n'a jamais été au numéro 2. »«
Quoi ?»
Huck dévisagea son camarade. « Tom, t'as retrouvé la piste ?»«
Écoute bien, Huck. L'argent est dans la grotte. »
Les yeux de Huck flamboyèrent. « Répète voir.
L'argent est dans la grotte. » « Tom, tu parles sérieusement ou est-ce que tu me fais marcher ?»
Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Veux-tu venir avec moi là-bas et m'aider à le sortir?
Ah ben, je comprends que je le veux. Tu me garantis que tu connais bien le chemin et qu'on ne se perdra pas.
Huck, ça ira comme sur des roulettes.
Hurrah! Qu'est-ce qui te fait penser que l'argent est...
Huck, mon vieux, attends que nous y soyons. Si on ne le trouve pas, « je te promets de te donner mon tambour et tout ce que j'ai au monde. »«
Top là, dit Huck. Quand est-ce qu'on y va ?»«
Tout de suite, si tu veux. Tu tiendras le coup ?»«
Est-ce que c'est loin dans la grotte ?»« Il n'y a guère que 3 ou 4 jours que je suis sur mes pattes. Je peux faire 1 kilomètre ou 2, mais plus, je crois pas. »
Par le chemin que tout le monde prendrait, sauf moi, il y en a à peu près pour 8 kilomètres, dit Tom. Mais il y a un raccourci que je suis seul à connaître. Je t'y emmènerai directement en bateau. J'amarrerai le bateau là-bas et pour le retour, je m'en charge à moi tout seul. Tu n'auras même pas à lever le petit doigt.
Alors allons-y tout de suite.
Entendu, dit Tom. Il faut emporter de quoi manger, de quoi fumer, des sacs, 3 cordes de cerf-volant, et puis ces nouveaux machins qu'on appelle des allumettes. Ça m'a joliment manqué de ne pas en avoir quand j'y étais l'autre jour. À l'époque, les allumettes étaient une nouveauté. Et les gens allumaient leur feu en prenant des braises de leur feu précédent ou chez la voisine quand ils avaient laissé éteindre le feu chez eux. Rappelle-toi, au clair de la lune, « va chez la voisine, je crois qu'elle y est. » Il avait laissé éteindre sa chandelle. Hein? Peu après midi, les deux gamins empruntèrent le canot d'un riverain absent et se mirent en route. Après avoir dépassé de quelques kilomètres le vallon de la grotte, Tom dit « Regarde, depuis le vallon, cette berge n'a pas changé. Pas de maison, pas de chantier, rien que des buissons. Mais vois-tu le point blanc juste après cet éboulis ? C'est un de mes repères. C'est là que nous allons mettre pied à terre. » Ils accostèrent. Eh bien, Huck, de là où tu es, tu pourrais passer une canne à pêche dans le trou par lequel je suis sorti. Est-ce que tu le vois ? Huck chercha, mais ne trouva rien. Alors Tom, fièrement, alla tout droit vers un épais fourré et dit « Eh bien, c'est là, mon vieux, regarde-moi ça. Comme trou dans tout le pays, on ne fait pas mieux. Surtout, discrétion, hein ? J'ai toujours voulu être un brigand, mais il me fallait un repère. Et le problème, c'était de le trouver. Nous l'avons maintenant et nous n'en dirons rien à personne, excepté bien sûr à Joe Harper et à Ben Rogers. Parce que naturellement, il faut que nous soyons une bande. Sans quoi, de quoi est-ce que ça aurait l'air ? La bande de Tom Sawyer, ça sonne bien, qu'est-ce que tu en dis ? Magnifique, Tom ! Et qui allons-nous voler ?
Oh, n'importe qui ! On arrête au passage tous les gens qui vous tombent sous la main. C'est comme ça qu'on fait.
Et on les tue ?
Pas forcément. On les mettra à l'ombre dans la grotte jusqu'à ce qu'ils payent une rançon.
Et qu'est-ce que c'est que ça, une rançon ?
De l'argent. Tu leur demandes tout ce qu'ils peuvent donner, eux et quelquefois leurs amis avec. Et quand tu les as gardés à l'ombre pendant un an, s'ils ne payent pas, on les tue. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Mais on ne tue pas les femmes. On les met sous clé, on ne les tue pas.
Elles sont toujours belles et riches, et elles ont une peur bleue. On leur prend leur montre et tout ce qu'elles ont, leurs bijoux, tout ça. Mais quand on leur parle, c'est toujours avec la plus exquise politesse et chapeau bas. Il n'y a pas plus poli qu'un brigand, tous les livres te le diront. Et puis, les femmes en pincent pour toi. Et quand elles sont restées dans la grotte pendant 8 ou 15 jours, elles cessent de pleurer. Et il n'y a plus moyen de les faire partir. Si on les chasse, elles reviennent. C'est comme ça dans les bouquins, mon vieux.
C'est rudement épatant, dit Huck. C'est encore plus bête que d'être pirate.
Oui, par certains côtés, dit Tom, parce qu'on est plus près de la maison, des cirques et de tout ça.
Entre-temps, les deux amis avaient pénétré dans le trou, Tom montrant le chemin. Après avoir réussi, non sans mal, à parvenir jusqu'au fond de la galerie d'entrée, ils assujettirent une extrémité de leur ficelle qu'ils déroulèrent au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils arrivèrent bientôt à la source. Tom eut un frisson rétrospectif. Il montra à Huck le dernier bout de mèche de chandelle adhérant encore à un bloc de terre glaise sur une aspérité du mur et il décrivit comment Becky et lui avaient vu mourir la flamme. Impressionnés par l'obscurité relative et par le silence, les enfants avaient baissé la voix et chuchotaient. Ils poursuivirent leur chemin et ne tardèrent pas à arriver à un autre corridor où ils furent arrêtés par le bord de la crevasse qui avait empêché Tom d'aller plus loin. À la lueur de leur chandelle, ils constatèrent que ce n'était pas un précipice, mais une sorte de falaise argileuse de 8 à 10 mètres de haut. Tom chuchota.
« Maintenant, Huck, je vais te montrer quelque chose. »
Il leva la chandelle.
« Regarde. Dans le coin, aussi loin que tu peux. Tu vois là, sur ce rocher, quelque chose tracé à la suie. Tom, c'est une croix.
Et alors, où est ton numéro 2, dit Tom. Sous la croix, hein ?
Huck, c'est là que j'ai vu Joe l'Indien passer avec sa chandelle.
Huck regarda un instant la croix et d'une voix tremblante.
« Tom, dit-il. Allons-nous-en. »«
Bah quoi, El Trésor ? Tu le laisses tomber, Huck ?»«
Ouais, laisse-le. Le fantôme de Joe l'Indien doit rôder par ici, c'est sûr. »«
Mais non, Huck. Il reste à l'endroit où il est mort, à 8 kilomètres d'ici.
Non, mon vieux Tom, non. Il rôde près de son trésor. Je sais très bien comment ils font les fantômes. Et toi aussi, tu le sais.
Tom finit par avoir des doutes. Huck avait peut-être raison. Mais tout à coup, une idée lui vint.
Ah, que nous sommes bêtes, Huck.
Le fantôme de Joël Indien ne se risquera pas à venir là où il y a une croix. L'argument porta.
Ah, c'est vrai, dit Huck. J'avais pas pensé à ça. Cette croix nous porte chance. Allons jusque-là et nous chercherons le coffre.
Tom passa le premier. Comme il descendait, ses talons s'imprimèrent dans l'argile du sol. Huck suivit. Dans la petite salle où se trouvait le rocher, débouchaient 4 galeries. L'examen des 3 premières ne donna rien. Dans la 4e, la plus près du rocher, ils découvrirent une sorte de petit réduit dans lequel il y avait une paillasse, des couvertures, une paire de bretelles, des couannes de lard et quelques autres volailles. Mais pas de coffre. Les gamins fouillèrent l'endroit à diverses reprises, mais en vain. Tom dit. Il a dit « sous la croix ». On ne peut pas être plus sous la croix qu'ici. Ça ne peut pas être sous le rocher, puisque le rocher s'enfonce en terre. Alors, malgré de nouvelles recherches, ils ne trouvèrent rien. Découragés, ils s'assirent. Huck donnait sa langue au chat. Tom réfléchit. Tout à coup, il se leva.
« Attends voir. De ce côté-ci, il y a des empreintes de pas et des traces de chandelles. Des autres côtés, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te parie que l'argent est sous ce rocher. Je vais creuser dans la glaise.
Ça n'est pas une mauvaise idée, dit Huck. Ragaillardi.
Tom sortit son couteau et creusa. À quelques 10 centimètres de profondeur, la lame entra dans un morceau de bois.
Non mais, tu entends? Dit Tom.
Huck se mit à creuser à son tour. Ils découvrirent quelques planches masquant une excavation naturelle qui passait sous le roc. Tom y descendit. Tenant sa chandelle à bout de bras, il ne pouvait pas voir le fond du trou. Voulant en avoir le cœur net, il se mit à 4 pattes. Le boyau descendait en pente douce, tournant à droite puis à gauche. Huck suivait. Après un coup de brusque, Tom s'écria.
« Qu'est-ce que tu dis de ça, Huck ?»
C'était bel et bien un coffre. À côté, il y avait un petit baril de poudre vide, 2 fusils dans leurs étuis de cuir, 2 ou 3 paires de vieux mocassins, 1 ceinture et quelques autres objets d'équipement détrempés par l'eau de suintement. Le coffre n'était pas fermé.
« Enfin, on le tient !» dit Huck, plongeant les mains dans le tas de pièces ternies par l'humidité. « Dis donc, nous voilà riches, mon vieux !»«
Huck, dit Tom, je savais que nous finirions par le trouver. C'est presque trop beau pour être vrai, mais maintenant nous l'avons, il n'y a pas d'erreur. Ah, il ne s'agit plus de bagnauder, faut le sortir. Voyons si on peut le soulever cette caisse. » La caisse pesait plus de 25 kilos. Tom pouvait la soulever par un coin, mais quant à la portée, il n'en était pas question.
« Je m'en doutais, dit Tom. » Quand ils l'ont porté le jour de la maison hantée, ils en avaient plein les bras. Heureusement que j'ai pensé à prendre des sacs.
Une fois l'or dans les sacs, les gamins le remontèrent jusqu'à la galerie.
Maintenant, les fusils, dit Huck.
Non, laisse-les là, dit Tom. Nous en aurons besoin quand nous serons brigands. Nous n'avons qu'à les laisser ici.
C'est également ici que nous ferons nos orgies. C'est un endroit épatant pour les orgies. Et qu'est-ce que c'est que ça, des orgies?
Oh, je sais pas. Mais les brigands font toujours des orgies. Faudra bien que nous en fassions aussi.
Ah, dis donc, il y a longtemps que nous sommes là, dit Tom. Il doit être tard.
J'ai faim, moi.
Pas toi?
Nous mangerons quand nous serons dans le bateau, et puis après, on fumera une pipe.
Qui fut dit, fut fait. Ils sortirent par le buisson, regardèrent prudemment de tous côtés, et ayant constaté qu'il n'y avait personne en vue, s'installèrent dans le bateau pour manger et pour fumer. Et au coucher du soleil, ils repartirent. Tom suivit la rive, bavardant gaiement avec Huck, tandis que la nuit tombait.
« Voilà, mon vieux, dit Tom.
Nous allons cacher la galette dans le grenier au-dessus du bûcher de Madame Douglas. Je reviendrai demain matin et nous compterons pour faire le partage. Alors on cherchera un endroit dans les bois pour mettre l'argent en sûreté. Monte la garde une minute, je vais chercher le chariot de Ben. Je reviens tout de suite. »
Il revenait bientôt avec le chariot, y mettait les deux sacs, les recouvrait de vieux chiffons et partait en traînant son chargement derrière lui. Arrivés à la hauteur de la maison du Gallois, les deux enfants se reposèrent. Ils allaient repartir quand le Gallois, sortant de chez lui, aperçut leur silhouette dans l'obscurité.
« Allô, qui est là ?»«
Huck et Tom Sawyer. »«
Parfait, venez avec moi les gars, on vous cherche partout, dépêchons-nous. Je vais le tirer votre chariot. » « Oh, mais hey, il est lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des briques? De la ferraille ?»«
De la ferraille, dit Tom. »«
Ah, je le pensais bien. On se donne plus de mal pour ramasser quelques bouts de ferraille qu'on vend 100 sous à fondre qu'on ne s'en donnerait pour gagner le double en faisant un travail convenable. Enfin, la nature humaine est ainsi faite. Dépêchons-nous. »
Les gamins demandèrent pourquoi il fallait tant se presser.
« Vous en faites pas. Vous verrez quand vous serez chez Madame Douglas. »
Un peu inquiet, car il était de longue date habitué à être injustement accusé de toutes sortes de méfaits, Huck dit.
« Mais Monsieur Jones, nous n'avons rien fait de mal !»
Le Gallois éclata de rire.
« Ça, mon garçon, j'en sais rien.
N'es-tu pas en bon terme avec Madame Douglas ?»«
« Si, elle a toujours été très gentille pour moi, » dit Huck. Alors tout va bien. De quoi as-tu peur ?»
À cette question, Huck n'avait pas encore eu le temps de répondre qu'il fut poussé en compagnie de Tom dans le salon de Madame Douglas. Monsieur Jones, le Gallois, laissa le chariot à la porte et entra à son tour. La pièce était brillamment éclairée et toutes les notabilités du village s'y trouvaient réunies. Les Thatcher, les Harper, les Rogers, Tante Polly, Sid, Marie, le pasteur et bien d'autres, tous sur leur 31. Madame Douglas reçut les enfants aussi cordialement qu'on peut le faire quand on se trouve en présence de deux garnements couverts de terre glaise et de taches de chandelle. Tante Polly, rouge de honte, fronçait le sourcil et regardait Tom d'un œil furibond. Personne toutefois n'était dans ses petits souliers autant que les deux enfants. Monsieur Jones dit
« Tom n'était pas à la maison et j'allais renoncer à le chercher quand en sortant à l'instant, j'ai trouvé Tom et Huck devant ma porte. Je vous les ai aussitôt amenés. »«
Vous avez bien fait, dit la veuve. Venez, mes enfants. »
Elle les fit monter dans une chambre et leur dit
« Vous allez vous laver et vous habiller. Il y a là tout ce qu'il faut, chemise, chaussettes, costumes. » Les deux sont à Huck. « Non, non, pas de remerciements, mon petit. Monsieur Jones en a donné l'un et moi l'autre. Mais ils iront à Tom aussi bien qu'à Huck. Habillez-vous, nous vous attendons. Descendez aussitôt que vous serez prêts. »
Et Madame Douglas descendit rejoindre ses invités. Fin de la première face de cette 9e cassette, Les aventures de Tom Sawyer, par Mark Twain, page 248.